Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous rencontrons en entrevue Céline Bouchard, philosophe. Bonne écoute.
Okay, bienvenue Céline, bienvenue à cette petite entrevue. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci Michel de m'avoir invité.
Ça me fait vraiment plaisir et puis je suis sincère de dire que ça me fait plaisir d'être invité et de te recevoir pour pouvoir te poser des questions. Surtout sur le thème qui nous intéresse, là, sur là où, on veut amener, où je veux arriver, la poésie, l'écriture, l'art, bah, c'est quelque chose que, bah, qui fait partie de toute ta vie.
Oui, c'est vrai.
Donc, comme en pratique philosophe, en plus, tu es allé chercher une autre dimension, je pense, à travers l'art, à travers et faire le lien avec la philosophie. Mais j'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu, c'est quoi ton parcours?
Oui, en fait, c'est ça. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé l'écriture, la poésie en particulier. Et je dirais que ça m'est venu dès l'enfance. Et puis, tu vois, dès l'enfance, dans le contact avec la nature. Alors, pour moi, ça a toujours été une grande source d'inspiration, la nature. Et j'en voyais, sans nécessairement appeler ça de cette façon-là, mais... La poésie de la vie, tu vois, à travers la beauté des forêts, la beauté des lacs, des rivières. Alors, je me souviens de grandes promenades avec mon père à m'émerveiller de tout ce qui pouvait surgir dans ces promenades dans les bois et mon père qui m'apprenait à regarder, m'apprenait à observer. J'ai développé un côté contemplatif à partir de ce moment-là. Et puis, donc, c'est quelque chose, tu vois, la beauté de la nature me touchait vraiment. Et j'ai eu le désir de l'exprimer à travers des mots. Et puis, un jour, une histoire assez incroyable m'est arrivée. J'ai trouvé une machine à écrire. Comme ça, alors que je me promenais dans les bois, tu vois.
Ah oui, dans les bois en plus.
Dans les bois en plus, oui, c'est ça. Alors, donc c'est assez particulier. Je l'ai ramené à la maison. Bon, j'avais 8-9 ans à cette époque-là. Et puis donc là, j'avais une première machine à écrire. C'est incroyable. Et j'ai commencé à dactylographier des chansons. Des chansons, tu vois, que j'aimais... que mes parents nous apprenaient. Et puis après ça, j'ai commencé à composer des chansons sur la machine à écrire. Ben, ça a été ça, un premier contact avec la poésie, avec l'écriture. Et ça ne m'a jamais laissé. Mm-hmm. C'est toujours resté avec moi.
C'est presque un aspect magique de marcher en forêt et rencontrer une machine à
écrire. Oui, je pense que oui, il y a un côté assez particulier à ça. Ah, bon, c'est... des coïncidences de la vie qui ont été bienvenues là, dans mon existence et qui m'ont permis de révéler quelque chose qui m'habitait.
Il y a cette recherche comme tu en as parlé, de marcher en forêt, rencontrer la nature et vouloir comprendre, c'est un peu la voie du philosophe, d'observer la nature. Comme disait Thalès de Milet, je pense, qui est un philosophe pré-socratique, peu importe, mais qui disait, si tu suis la nature, c'est peut-être pas mot pour mot, mais si tu suis les lois de la nature, elle te reconnaîtra comme un des siens et tu participeras au plus grand, ou plus à la nature, en fait.
Oui, je trouve que c'est vrai. Qu'il y a une profonde inspiration. Et après, quand j'ai fait des études littéraires, par exemple, ça, je suis toujours restée sensible à ce qu'on nomme la poésie de la vie. Pour moi, l'écriture, la poésie, par exemple, plus particulièrement, n'a jamais été dominée par une forme littéraire, tu sais, en tant que telle, mais plutôt... un mystère, une beauté dans la vie, une musique. Tu vois, c'est ça aussi dans la nature que je percevais, tu sais, très, très jeune. cette musique de la nature. C'est comme une musique qui s'entend dans le silence. Alors, ça, dans la pratique de l'écriture, dans la pratique de la poésie, dans la lecture de la poésie, c'est comme si je retrouvais ce silence qui t'amène à une autre musique.
La
Et
musique
c'est ça qui m'a toujours inspirée.
comme la musique de l'âme, écoutez la voix du silence. Bon, on n'en parlera pas dans cet épisode-ci, mais c'est un très beau texte du Tibet. Mais tu parles d'écriture et de poésie. Est-ce que pour toi, pourquoi c'est important la poésie? La question peut être large, mais pour toi, que tu vois d'important?
Alors, ça, c'est ça, donc c'est cette beauté de cette musique intérieure. Tu sais, il y a cette phrase, tu parlais de la voix du silence, donc c'est ce silence qui permet d'entendre une musique intérieure. Une voix, tu sais, et Shakespeare, il dit quelque chose de très semblable. Il dit, la poésie, c'est la musique que chaque personne porte en elle-même. En fait, c'est beaucoup plus naturel qu'on peut le penser. C'est à travers des études littéraires, bon, ben, j'ai rencontré le formalisme, des approches très, je pourrais dire, intellectuelles, des définitions de ce qu'on considère comme la poésie et qu'on considère comme l'écriture, mais avec le référentiel que... Tu vois, que j'avais de ma sensibilité, je me suis intéressée plus. Tu vois, j'ai toujours voulu garder ce contact avec cette musique de la vie, cette musique de l'âme. Et donc, avec les études, tu vois, alors je me suis intéressée à l'étymologie. Et puis, poésie, ça veut dire créer.
Intéressant.
Oui, alors c'est plus large qu'on peut le penser, c'est en relation avec la création. Et là, j'ai continué à fouiller un peu ce thème-là. Puis, donc, tu vois, ça m'a amené aux origines. Tu vois, par exemple, bon, ben, poésie, c'est un mot qui vient de la Grèce ancienne, et dans son étymologie, il veut dire créer. De créer. Et au départ, la poésie n'était pas séparée de d'autres formes d'écriture, ou encore même, je pourrais dire, de d'autres formes d'art.
Intéressant.
Elle était rattachée à la création en général, et elle incluait, par exemple, les arts de la scène, comme le théâtre, la musique. Il n'existait pas la musique séparée des mots. La musique était toujours associée aux mots. Et donc, les mots n'existaient pas seuls non plus sans musique. Il y avait tout cet art oratoire qui était rattaché à ça. Donc, ça, c'était une grande source d'inspiration aussi pour moi, cette découverte-là.
J'imagine. Et ces anci plusieurs anciennes traditions, ben justement, la transmission se faisait par souvent les chants, qui étaient des histoires racontées. On pense à la Théogonie d'Hésiode, je pense, de la Grèce ancienne, où toute la création de l'univers était racontée sous une forme d'une histoire, qui était en même temps un chant. On pense à bon, ce qu'on voit, la Bhagavad Gita, qui dit le chant du Seigneur, qui était raconté aussi avant d'être écrite. Et ça remonte à la nuit des temps, donc il y avait à la fois ce sens du vrai dans les mots et le sens du juste et le sens du beau, comme Platon va nous en parler plus tard dans l'histoire, avec l'éducation globale ou intégrale de l'individu ou de l'être humain, avec gymnastique, et avec la musique et avec la philosophie. Donc la gymnastique pour le corps physique, mais aussi pour comment se structurer et tout ça. La musique pour s'inspirer, pour se mettre au contact de l'harmonie, et puis la philosophie pour les lois de la nature. Donc, peux-tu nous parler un peu justement de cette éducation selon Platon, entre autres la musique, parce que c'est les muses, c'est l'inspiration.
Ouais, merci Michel d'amener ça parce que c'est très intéressant justement ce lien avec la musique, la philosophie. Et quand on fait référence à Platon, gymnastique pour le corps, musique pour l'âme et philosophie pour l'esprit. Et déjà, Platon, il disait que la plus haute musique est la philosophie. Ça, c'est assez
Intéressant.
intéressant, ouais. Ça, c'est, puis philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse a besoin de s'exprimer au travers un transport, si je pourrais dire, un transport de l'âme pour toucher justement cette sagesse ben, qu'on n'a jamais, qui nous échappe, mais de laquelle on peut peut-être se rapprocher. Et là, c'est là où l'éducation, comme l'enseignait Platon, intégrait toutes les dimensions de l'être humain. C'est-à-dire que, parce que quelquefois, en fait, aujourd'hui, on a réduit musique à le monde des muses associé à l'art. Mais les muses, elles intègrent aussi la science. Et les muses, elles intègrent également le contact avec la gymnastique, avec le corps. Donc, gymnastique pour
Dans le
le
mouvement.
corps, oui, c'est ça, par le mouvement. Et c'est comme trois mondes qui vont se nourrir l'un l'autre. Par exemple, la musique va venir nourrir la gymnastique. Tu vois, par exemple, si quelqu'un ne se forme qu'au niveau d'exercice physique, il va fortifier le corps. Ah, il va avoir une force physique, va fortifier le corps, mais il va manquer une dimension de ce transport, justement, pour toucher quelque chose de plus essentiel dans la vie que va lui amener, justement, la musique. Alors, si la gymnastique s'associe à la musique, elle peut devenir danse, elle peut devenir, tu l'as dit, mouvement, elle est mouvement,
Rythme.
rythme. Et tout ça va venir nourrir l'âme. Et l'âme qui ne serait pas nourrie par le corps, par exemple, par la gymnastique, peut un peu tourner sur elle-même. Cette âme, elle peut tourner un peu sur elle-même, dans le sens où l'activité physique va venir oxygéner, va venir vitaliser cette inspiration qui est le propre de l'âme. Et il va y avoir une circulation. Tu vois, ça va donner une vitalité. Puis souvent, on peut remarquer ça chez les poètes, chez les artistes. Ils sont en pleine création et à un moment donné, ils vont avoir besoin de marcher physiquement. Avoir besoin de se lever, sortir, marcher pour pouvoir canaliser, tu vois, cette inspiration qu'ils peuvent capter, tu vois, par cette élévation de l'âme, tu vois, qui est le propre de la musique, qui est le propre de l'art. Quand je parle de musique, je parle de la science des muses, dont fait partie la poésie, c'est une musique, tu vois, c'est. Et toute la littérature, tu sais, qu'on parle d'une prose poétique ou de la prose comme telle, de la narration, des histoires, tu vois, mais l'imagination qui capte quelque chose, bien, a besoin d'être supportée, d'avoir le support du corps est très important.
C'est une vision autre. Que j'aime beaucoup, ben, qu'on aime beaucoup ici à Nouvelle Acropole, comme apprenti philosophe, justement, parce que, moi, il y a une déconcentration, mais cette idée de trouver une harmonie dans tout ce qu'on fait, tu as parlé de l'art comme, l'arithmétique aussi fait partie de l'art, l'astronomie, parce que c'est les sphères, ce qui est harmonieux, ce qui est au-delà, mais ce qui est beau, ce qui est en mouvement, ce qui est... Donc, les mathématiques, arithmétique et tout ça. Donc, on a tout intérêt à retrouver un peu aujourd'hui ce sens d'éduquer, de faire jaillir, hein, c'est vrai, éduquer, faire jaillir de Et je trouve que ça touche qu'est-ce que tu dis avec bon, la poésie fait jaillir quelque chose de l'être humain. Quand c'est beau, c'est harmonieux, c'est quelque chose qui nous inspire, qui fait ben, qu'on veut faire, qu'on veut devenir, qu'on veut aller vers et qu'on veut éveiller et s'élever comme être humain.
Oui, c'est vrai. Et c'est ça, c'est que l'artiste, l'art, se met en contact avec lui-même, avec l'intériorité. On peut l'appeler une dimension essentielle, une dimension spirituelle. Et donc, il capte quelque chose qui est l'essence. Ça, je pense, j'aime bien les mots de Saint-Ex, on y revient souvent, mais quel grand poète, Antoine de Saint-Exupéry, hein, tu vois, quand il dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, tu vois, c'est ça, c'est que l'artiste, sa particularité, c'est d'être relié à son propre cœur et de pouvoir capter quelque chose de ce mystère, quelque chose du sacré, quelque chose qui transcende le quotidien, qui est justement cette poésie de la vie, hein, que tous on porte en soi, hein. C'est encore une fois, comme le disait Shakespeare aussi, tout être humain est poète. La poésie est naturelle. C'est simplement de se mettre en contact avec soi-même et de pouvoir exprimer ce que l'on capte. Et ce que l'on capte alors est quelque chose qui appartient à, bon, on dit, c'est l'imaginaire, hein, c'est une image, hein, c'est comme quelque chose qui appartient à notre avenir, à notre devenir. C'est pour ça que les artistes sont en train d'amener dans le visible quelque chose qui n'était pas encore apparu, mais quelque chose qui est en train d'apparaître. Alors, donc c'est vraiment fondamental parce que ben nous tous, de pouvoir se relier à l'intériorité et de voir, laisser apparaître des idées nouvelles, des compréhensions nouvelles, des formes nouvelles, nous font progresser comme être, comme individu, comme culture, comme société. Les artistes sont fondamentaux pour les cultures, pour les sociétés. On ne peut pas avoir de. C'est Georges-Engel Juraga, le fondateur de Nouvelle Acropole, qui disait quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'accompagne toujours. C'est qu'une vraie culture, il n'y a pas de vraie culture, il n'y a pas de vraie société sans les artistes. C'est fondamental. Aujourd'hui, on accorde moins de. On n'accorde pas toujours la place à l'art qui lui revient. C'est l'art est souvent vu comme un divertissement, comme quelque chose qui nous fait échapper du réel. Mais non, l'art nous met en contact avec le réel. Mais avec ce réel qui appartient au devenir. Au devenir de l'humain, à notre devenir. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il est en même temps en lien avec le mystère, quelque part. Mais c'est comme la philosophie aussi. Cet amour de la sagesse, comme le disait Platon, c'est pour ça qu'il disait, c'est la plus haute des musiques. La philosophie, c'est la plus haute des musiques. Parce qu'elle cherche, elle cherche la sagesse. Elle cherche l'essence, l'essentiel, l'essence des choses, comme le dit Saint-Exupéry, et tous les artistes sont en quête du réel, en quête de la vérité, en quête du sens.
Cette idée de capter, l'artiste, comme c'était très bien dit, est un peu le pont entre ce monde des idées, qui est le réel et la réalité. Donc, il capte des idées et les met en forme. C'est très beau parce que dans l'art des artistes classiques, l'Antiquité, la Renaissance, il disait, ben, à travers une pierre, il voyait la statue qui était là. Il captait une idée, une arché. J'hésite à employer le mot, mais il y a un peu l'idée d'un archétype, d'un archétype. Il le voit dans la roche. Il faisait seulement détacher la statue qui est à l'intérieur. Si on pense au David de Michel-Ange, qui pour moi, quand je l'ai vu il y a quelques années pour la première fois, ben, je l'avais vu une réplique en fait en Italie, lors d'un voyage en Italie, qui était à grandeur nature. C'est énorme, c'est incroyable, la taille de la statue. Et les yeux, quand on regarde les yeux, il y a quelque chose d'éternel. C'est pour ça que même tout le monde le trouve inspirant, et sans trop savoir pourquoi. Et il y a cette idée-là dans l'art qui touche. Même qu'on connaisse l'art ou pas, ça touche, ça transperce toutes les ce qu'on croit savoir, tous les préjugés, toutes les cultures, et c'est quelque chose qui touche l'être humain, qui touche le cœur directement de l'être humain.
C'est ça, ça vient toucher l'âme et ça nous met en contact avec le beau dans son essence, dans son mystère aussi. Tu vois, qu'est-ce que le beau? Ah, on ne peut pas le définir, c'est pas une mode. C'est pas un canon de beauté, ce n'est pas ça. C'est quelque chose justement qui correspond à l'essence. Les philosophes nous disent que c'est ce qui est en harmonie avec l'essence. Alors et donc on va le retrouver à travers le vol d'un oiseau, on va le retrouver à travers le sourire d'une personne, on va le retrouver à travers un coucher de soleil sur un lac, sur une vue sur la montagne. La nature est une œuvre d'art absolument magnifique, une œuvre d'art qui nous bouleverse quand on peut justement s'ouvrir un peu à la contempler. Et je dis la nature, et là je veux dire aussi la nature humaine, et tout ce qui existe dans la nature, le monde animal, les végétaux. Tous ces paysages magnifiques et les œuvres des hommes, les œuvres des êtres humains, le Michel-Ange, et toutes ces grandes œuvres, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la sculpture, dans la danse, dans le théâtre, dans l'oratoire. On a besoin de poésie, on a besoin de beauté pour rencontrer la nôtre propre et celle de nos semblables qui s'expriment dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations.
C'est intéressant. Et si on prend ici la murale qu'on a avec les différentes vertus, ben ce sont justement cette idée que l'on peut vivre ses qualités, ses vertus, ça devient une vie justement qui est poétique dans la façon d'être, dans la façon d'interagir avec les autres, la concorde, l'humanisme, ce sont des hautes vertus. Et l'art peut nous inspirer ces vertus, touche ces vertus. Ensuite, ben, comment on les incarne, comment on les vit. Et c'est ça un peu notre chemin de philosophe, d'arriver à transcender un peu un état, ben, qui est comme il est. Quand on arrive, on vient au monde, on devient avec nos qualités, nos défauts, mais il y a quelque chose qui nous inspire à aller au-delà, à faire un pas de plus vers quelque chose que l'on croit meilleur, mieux et meilleur, mais selon nos propres critères à nous. Et l'art touche ces éléments-là, d'éveiller ce qui est le plus élevé en nous. C'est pour ça que je trouve intéressant ce que tu dis avec ben, ce qui peut se refléter par nos actions, par comment on vit, ça devient une vie harmonieuse et poétique. Et ça me fait penser, je fais une parenthèse, mais le film Le Dernier Samouraï, qui est un magnifique film, qui présente la vie des samouraïs dans le film, et il les décrit comme justement des gens qui mettent de la discipline dans tout ce qu'ils font. Même le thé, servir le thé est un art, c'est devenu la cérémonie de thé. Mais l'idée, c'est mettre de la beauté dans le geste, de quelque chose de si simple que de servir le thé. Et là, c'est devenu, ça devient un autre, ça devient d'un autre monde, quelque chose de beau et de raffiné. Et ça nous appelle, ça nous amène à nous, à être concentrés, à aller au-delà de nous-mêmes.
Oui, c'est ça, pour perfectionner cet art, pour arriver à cette harmonie, hein, à cette beauté. Mais c'est souvent, ça demande justement cet aspect d'un combat intérieur. Tu parles du dernier samouraï, tout à fait, c'est exactement ça. Parce que c'est cette image qu'on va rencontrer aussi dans les textes de l'Inde ancienne ou d'autres. Mais tu vois, où il y a, on parle du poète guerrier, ou dans les civilisations, comme chez les Mayas ou d'autres cultures. Et l'artiste va aussi, le philosophe, tout comme le philosophe, va vivre aussi ce combat intérieur pour arriver à un état plus harmonieux, pour arriver à exprimer justement cette beauté qu'il sent, pressent, mais qui demande un courage, qui demande un travail intérieur pour dépasser des peurs, pour dépasser des limites, pour dépasser des discordes ou des choses qui ne sont pas harmonieuses à l'intérieur de nous, pour arriver à sculpter la pierre. Eh bien, il va y avoir des mouvements, on va chercher le geste qui est juste. Et c'est la même chose au niveau de la poésie, pour arriver à cette musique des mots. Il y a certains auteurs qui ont travaillé 20 ans sur un même texte. C'était le cas de Saint-Exupéry pour Le Petit Prince. 20 ans à travailler le texte pour arriver à la musique parfaite. Parfaite. mais ça n'existe pas peut-être, mais c'est un équilibre. C'est cette harmonie. Donc, on ne l'atteint pas. L'humain n'est pas parfait, mais on peut s'en approcher. Et puis, mais ça demande un courage. Tu parles de cette fresque avec toutes ces vertus qui sont illustrées. Oui, tout comme le travail du scientifique, hein, qui 100 fois revient sur l'expérience. Tu vois, comme le travail du philosophe, qui purifie, qui raffine, qui approfondit les idées pour arriver à un peu plus de justice, un peu plus de justesse, justesse dans la musique. Alors, ça prend beaucoup de courage.
Ça demande... ça peut penser aussi à la chapelle Sixtine, je pense que c'était Michel-Ange aussi, où il a passé 16 ans au plafond à peindre le plafond de la... 16 ans quand même pour le faire aujourd'hui, hein, à l'ère de l'instantané, on ne peut même pas imaginer passer 16 ans de sa vie à peindre un tableau. Et on voit aujourd'hui, combien d'années, 500, 600 ans plus tard, c'est toujours admiré par des milliers de personnes par année, et c'est toujours aussi grandiose. Donc, ça nous demande de dépasser justement nos propres limitations, aller à ce qui est juste, mais... ce qui est pour nous le plus important, donc de faire des choix, vers quoi je vais aligner ma vie, vers qu'est-ce qui est important dans ma vie. Et c'est pas l'art de faire tel art qui est important, mais c'est qu'est-ce que je veux faire rayonner au travers cette pratique-là.
Tout à fait. Alors, il va y avoir des aptitudes, il va y avoir des talents que l'on peut pressentir, chacun d'entre nous, hein. On peut tous être artistes dans les dimensions de notre vie, hein. C'est un art, l'artiste, en fait, c'est l'art de vivre. La philosophie, c'est ça aussi, c'est l'art de vivre. Mais toujours, tu vois, c'est ça, que l'on soit scientifique, que l'on soit artiste, que l'on soit philosophe, ça, peu importe, et des métiers qui s'y rattachent, ce qui est le moteur, tu vois, c'est le moteur pour s'approcher du beau, du vrai, du juste, c'est toujours cette quête de la vérité, cette quête du sens, cette volonté de comprendre. Tu vois, comme, tu sais, c'est ça, c'est pas l'art pour l'art, ou l'œuvre pour l'œuvre,
non, c'est ça.
Ou les idées pour les idées, chez le philosophe, par exemple. Non,
ouais.
C'est vraiment la volonté de comprendre, de voir. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Mais qu'est-ce que l'univers? Mais qu'est-ce que la vie? C'est quoi cette musique qui est là? C'est vraiment un mystère.
Et dans tous les métiers, ce qui est beau aussi, dans les métiers de... Peu importe le domaine dans lequel on veut œuvrer, on peut toujours faire mettre un peu plus de beauté dans ce qu'on fait, même dans un métier manuel qu'un métier... plus intellectuel, mais de passer même la mop. J'ai déjà vu quelqu'un passer la mop. Et c'est un magnifique travail, un des plus importants. Et c'était beau, la façon que c'était posé. Tu sais, on peut le passer, puis... Mais on peut le passer quasiment comme... presque comme une danse. Donc, et ça devient, waouh, c'est le geste est cool, et c'est presque une musique. Et ça me fait penser, je pense aussi, que c'était... je sais plus si c'est le fondateur de Nouvelle Acropole qui disait que... Même quand on balait un coin de l'univers. Donc c'est très beau, poétique comme image, parce qu'on on ne fait pas que déplacer de la poussière, mais on met de l'ordre dans un coin de l'univers. Là. On participe à un plus grand tout dans l'univers.
Là. C'est ça, si on peut capter un peu de cette harmonie, on peut établir un peu d'harmonie à l'intérieur de soi, on peut y participer en amenant aussi quelque chose de beau dans le monde. Et on en a vraiment fondamentalement besoin aujourd'hui.
Oui, oui. Mm-hmm. On a besoin de réenchanter le monde, comme disait une de nos revues il y a quelques années.
Oui, c'est vrai, réenchanter. Mais c'est ce chant, hein, à l'origine du monde.
Merci beaucoup, Céline. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps et ça pourrait faire l'objet d'une prochaine entrevue. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais essayer de voir tout le monde ici, les apprentis philosophes, pour faire ces petites entrevues. Et puis, c'est sûr que je vais te réinviter.
Merci beaucoup, Michel. C'était tellement plaisant.
Merci.
Vive la beauté.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca/contribuer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca/contribuer.